vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Le 28 avril a été choisi par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, pour rappeler au monde l'enjeu de la santé et de la sécurité au travail et l'importance de la prévention des risques professionnels. Et cette année 2023 a eu lieu un rassemblement unitaire de plusieurs collectifs traitant de ce sujet des accidents du travail et de l'insécurité au travail, un rassemblement unitaire qui s'est passé devant le ministère du Travail ce 28 avril 2023 à 10h. Et en début d'après-midi, se tenait un débat à la Bourse du Travail de Paris sur les luttes et difficultés pour la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses.
Une réunion constituée de syndicalistes, d'associations, pour continuer la lutte contre les accidents du travail et les morts au travail. Vous pourrez entendre lors de cette émission une sélection d'interventions qui ont eu lieu lors de ce meeting. De nombreuses propositions concrètes ont été faites qui, nous l'espérons, seront suivies d'effets.
Oui, nous sommes une association de défense des victimes des risques psychosociaux du travail. Notre association s'appelle ASD Pro, qui veut dire Association Suicide et Dépression Professionnelle. Alors, il ne s'agit pas, comme l'a dit Louis-Marie, d'opposer ni même de séparer la problématique de santé au travail. Elle est globale. S'il existe un domaine dans lequel l'invisibilité est encore plus forte, c'est bien l'invisibilité qui est portée sur la question des victimes de ce qu'on appelle les organisations délétères du travail ou de management harcelant, etc., qu'on peut résumer sous le terme de risque psychosocial, même si le terme est discutable. La Sécurité sociale a reconnu l'an dernier 35 suicides en accident du travail. Or, une étude de Santé publique France, qui est parue l'année dernière, sur un échantillon de 1500 personnes qui se sont suicidées en France, à partir de questionnaires qui ont été faits aux familles, etc., aux collègues, cette enquête de Santé publique France estime qu'il y aurait actuellement entre 600 et 1300 suicides potentiellement en lien avec le travail par an. 1300. À rajouter aux deux par jour dont on parlait ce matin. C'est une estimation, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pourquoi on ne peut pas faire autrement? Parce qu'il n'y a aucune comptabilité qui est faite sur la question des suicides. Et même si la sécurité sociale en parle du bout des lèvres, en tout état de cause, du côté de la fonction publique, alors là, c'est l'omerta la plus totale. On ne sait pas. Il n'y a rien. Et la question des suicides, c'est la face émergée de l'iceberg. Parce que derrière, il y a toutes les pathologies. Il y a tous les malades. On a connu ça chez France Télécom. Il n'y a pas eu que des suicidés chez France Télécom. Il y a eu des milliers de victimes chez France Télécom. Là, c'est plus Santé publique France, c'est l'ANSES qui a donné un chiffre auprès de notamment du Sénat pour l'évaluation des sous-déclarations ATMP. 108 000 pathologies psychiques qui sont potentiellement existantes par an en France. 108 000. L'année dernière, la Sécurité sociale en a reconnu 156. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tableau des maladies professionnelles liées aux pathologies psychiques. J'en ai fini avec les chiffres. La question derrière, c'est effectivement la problématique du déni qui est posée. À chaque fois qu'il y a un suicide ou une maladie professionnelle, c'est renvoyé tout de suite à la sphère privée. Il avait des problèmes, etc., etc. Personne ne nie qu'un accident du travail, notamment un suicide, est multifactoriel. La question n'est pas là. La question est de savoir s'il y a un lien potentiel avec le travail. La question est de savoir si, dans son travail, avait-il ou avait-elle un problème. Et s'il avait ou elle avait un problème, alors la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Et c'est là la question. Donc il y a tout un travail, et un travail, pardonnez-moi à mes camarades, parce que je dis mes camarades, j'ai été secrétaire de CHSCT pendant 25 ans. C'est un problème syndical, éminemment syndical. Cette prise en compte du travail à faire pour la reconnaissance. Et nous, on est un travail associatif, ça fait 15 ans qu'on existe. On essaye de travailler avec les syndicats quand il y a des suicides, quand les ayants droit ou quand les victimes elles-mêmes nous contactent. Parce que j'ai parlé des suicides, pardonnez-moi. Les tentatives de suicide, c'est 6 à 7 fois le nombre de suicides. Donc 1300 multiplié par 6 à 7. Parce que dans les 108 000, c'est hors suicide et hors tentative de suicide. J'arrête avec les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait syndicalement et surtout intersyndicalement de ces problématiques-là ? Parce qu'il y a la création d'un tableau de maladies professionnelles. Vous savez que depuis que Sarkozy, il a sorti un décret qui interdit aux médecins, et notamment aux médecins du travail, d'établir des certificats qui font le lien entre la pathologie et le travail. Il y a des centaines de médecins qui se sont retrouvés devant le Conseil de l'Ordre parce qu'ils avaient attesté d'un lien avec le travail. Il faut abroger ce décret. Je termine par la dernière proposition, c'est que dès qu'il y a un suicide ou dès qu'il y a un mort au travail, il faudrait systématiquement qu'un juge d'instruction soit nommément désigné sans avoir à passer par un procureur de la République. Il faut une enquête d'un juge d'instruction.
Sébastien.
Je suis intervenu au nom de la Fédération Sudrail sur la question de la sous-traitance et des accidents mortels. Parce que depuis le mois de novembre, donc on a vécu malheureusement 4 accidents mortels, uniquement 2 salariés de la sous-traitance sur des chantiers ferroviaires. Donc 4 accidents mortels, ces quatre ouvriers, donc l'un de 50 ans, l'autre de 49 ans, et les deux derniers de 18 ans et de 24 ans, voilà, qui sont décédés. C'est une réalité, hein, chaque année, donc, on a des accidents mortels du travail à la SNCF, et plus de la moitié sont des salariés de la sous-traitance. Et ce qui nous avait été à l'époque, le démantèlement de la SNCF comme entreprise publique, c'était la montée en compétence des entreprises privées, soi-disant. Donc il faut savoir que ces entreprises privées dépendent toutes de géants du BTP, des filiales, avec à l'intérieur également de la sous-traitance en cascade, des intérimaires qui sont sous-formés, qui ne connaissent pas notre milieu qui est lié à la sécurité ferroviaire, qui est très particulier aussi. Voilà, donc on a cette réalité-là. Et sur ce que vous disiez sur les instances aussi, deuxième donnée importante, la SNCF, je crois, était la première grande entreprise, le 1er janvier 2019, à être soumise à la mise en place des CSE. On est passé de 600 CHSCT à la mise en place de 33 CSE avec donc, 33 C2SCT, qui n'ont plus du tout les mêmes moyens. On parlait personnalité juridique, plus de PV aussi, plus de procès-verbaux. Donc ça aussi, c'est quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Notre nombre de délégués a été divisé par 20. Imaginez, avec des amplitudes territoriales, parfois à l'échelle, comme les camarades du fret, à l'échelle nationale. Donc toute cette perte de proximité, justement, qu'on avait avant avec les CHSCT, les enquêtes qu'on pouvait mener suite à des accidents graves, c'est des choses qui ne sont plus possibles. Nous, on a demandé, non seulement au niveau de la Fédération Sudrail, en mars dernier, justement, une réunion avec la direction nationale, parce que le problème, c'est qu'au niveau de la direction réseau, parce que nous, ça a été découpé en plusieurs SA, les élus CSE et CLCT ne sont plus informés systématiquement des accidents graves qui surviennent également pour les services d'entreprise extérieurs. Donc ça aussi, c'est une perte d'information, une perte de possibilité d'action aussi et de prévention évidemment des risques professionnels qui est extrêmement importante et préjudiciable de fait. Il y a cette question aussi qui nous semble extrêmement importante et comme vous le disiez, vous imaginez le nombre de droits d'alerte a donc diminué depuis 2019 de manière exponentielle. Le problème également des enquêtes d'accidents graves. Alors pareil, on pourrait gloser sur la notion d'accident grave. On n'a pas du tout la même notion, nous évidemment, que nos patrons et en plus que les services des entreprises sous-traitantes. Donc voilà, les accidents graves ne sont plus, même plus, sont sujets à discussion et sont même plus soumis effectivement aux différents délégués. Donc ça aussi, et sur les expertises, notamment les expertises risques graves, et également, donc elles ont énormément décru, de fait, depuis 2019. Donc vous voyez, tous ces moyens d'action qui avant existaient, donc on parlait en retour au CHSCT, à des instances aussi dotées de pouvoir d'action, de pouvoir d'agir, c'est une vraie réalité, une vraie urgence aussi, parce que malheureusement, effectivement, la situation des conditions de travail, des accidents graves et accidents mortels a explosé. Et juste là-dessus, hein, donc la SNCF se fixe des objectifs, donc zéro mort en 2023, donc vous voyez, malheureusement, cette réalité, elle existe, fixe un objectif de 39 accidents graves en 2023, et on en est déjà, nous, à 14 au bout du premier trimestre. Donc 14 accidents graves, vous voyez que les fameuses statistiques, même le pronostic, vont être largement explosées d'ici la fin de l'année. Et pour terminer là-dessus aussi, c'est vrai que par rapport à l'invisibilisation, tu parlais aussi des suicides au travail. Nous, en 2017, avec les camarades de France Télécom, on a fait une conférence de presse commune, puisque la CGT Cheminot et Sudrail, nous avions dévoilé à l'époque, en 2017, en plein démantèlement de la SNCF, 57 suicides potentiellement liés au travail, 57 suicides, rien que pour l'année 2017. Et ça, c'est des données qu'on a pu faire à l'époque avec les CHSCT, mais vous imaginez, enfin, c'est des données qui n'existent plus, puisqu'on n'a plus le nombre de délégués qui peuvent faire ce travail aussi. Donc voilà, les conférences de presse, je pense que c'est important aussi. Et à l'époque, on a été uniquement reliés par l'AFP, Mediapart, et puis la revue Santé Sécurité. Mais vous voyez que pour vaincre effectivement ce mur du silence, pour vaincre cette omerta aussi, je pense qu'après des accidents graves et notamment des accidents mortels, c'est important effectivement de faire des communiqués de presse, de mettre en visibilité effectivement cette réalité du monde du travail. Merci.
Oui, donc je m'appelle Alain Beaubiot, je suis secrétaire national de l'ANDEVA, l'Association de défense des victimes de l'amiante. J'ai un passé long de militant de comité hygiène et sécurité. Je voudrais commencer par rappeler ce qui reste pour moi un souvenir terrible. Il y a 20 ans, presque jour pour jour, un jeune gars, un jeune technicien, dans une entreprise chimique, Sanofi Aventis, un centre de production, et ben ce technicien, il est rentré dans un appareil de l'industrie chimique sans mesure d'oxygène avant, sans formation sur les dangers de l'azote, sans surveillance en surplomb, sans colmatage des arrivées de fluides dangereux, et il y a laissé sa peau. Il avait 31 ans, il venait d'être papa d'une petite fille qui avait un an. Cet accident a provoqué ce que beaucoup d'entre nous ici connaissent, c'est-à-dire la réaction hyper dégueulasse de l'employeur, avec un déni, avec des mensonges et avec une version des faits qui consistait à mettre en doute le fait qu'il y ait un ordre qui lui était donné de faire ça. Il y avait une feuille de travail, on ne pouvait pas l'exécuter sans contrevenir aux règles élémentaires de sécurité, mais le patron avait un doute. Pourquoi est-elle-t-il descendue ? Donc ça a provoqué une réaction de rage vis-à-vis de ses collègues de travail. Nous nous sommes mis au travail avec eux. L'arbre des causes fait sans les syndicats par la direction était une horreur, une saloperie. On l'avait surnommé le torchon. On a fait 28 séances pour faire l'arbre des causes des ouvriers et répondre aux bonnes questions. Pourquoi n'avait-il pas eu de formation ? Pourquoi des consignes élémentaires de travail en vase clos n'avaient pas été respectées ? Et au bout de toutes ces questions, on retrouvait l'argent. L'argent, il fallait aller plus vite pour l'argent, il fallait gagner le marché américain, il fallait respecter les règles qualité, même si elles n'étaient pas sécurité. Ce travail de CHS, il a débouché, et c'est là-dessus que je voudrais insister, par une action judiciaire au pénal. L'employeur, longtemps après, a été condamné à un an de prison avec sursis, à 7 500 € d'amende, et le jugement a été affiché sur les portes de l'entreprise pendant un mois. Ça a pesé lourd sur la question du rappel à la prévention. Je voudrais dire que les morts au travail, ça n'est pas seulement les morts d'accidents, c'est aussi les morts de maladies. Alors, je voudrais dire, mais c'est basé sur une expérience. Premièrement, l'importance de l'action judiciaire. Deuxièmement, la possibilité et l'efficacité de la synergie entre le syndicat ou les syndicats et les associations. Et je voudrais dire aussi que le problème des maladies professionnelles, il y a encore un long chemin à parcourir. Aujourd'hui, il faut savoir que sur l'amiante et sur la plus terrible des maladies de l'amiante, j'arrête là-dessus, le mésothéliome, eh bien, 1 sur 2 pratiquement ne fait pas l'objet d'une déclaration. Ça signifie que des veuves se retrouvent avec la souffrance, le deuil, mais aussi les difficultés économiques évitables, parfaitement évitables. Donc c'est un terrain important d'action commune, syndicats et associations.
S'il vous plaît, vos interventions, concentrez-les sur des propositions de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut faire ensemble tout le long de l'année, pour que l'hécatombe cesse et des trucs comme ça. Comment on peut faire pour tout ce que tout le monde a exprimé, qui est très important et très douloureux, on puisse le rendre public, par exemple un blog ou je ne sais pas, il faut en discuter, où chacun et chacune et chaque organisation et tout ça puisse mettre ça sur le blog, ce qu'on a vécu par rapport au cancer de l'amiante ou au chlordécone ou à des choses comme ça, mais qu'on ne le fasse pas aujourd'hui pendant cette réunion. On sait pourquoi on est là, on sait qu'il y a des problèmes horribles partout.
Le collectif des ouvriers agricoles, ouvriers ouvrières agricoles.
Alors ben justement, je vais rebondir sur ce que monsieur disait de l'amiante et sur ce que vous disiez aussi. Et comme je vous ai dit ce matin, la situation en Martinique, en Guadeloupe est catastrophique. Nous sommes aussi des personnes qui sommes syndiquées et nous remarquons que nos droits ne sont pas respectés. Le statut des ouvriers agricoles en Martinique et en Guadeloupe est différent du statut des ouvriers agricoles en Hexagone. Donc nous sommes régis par la sécurité sociale générale, ce que je ne comprends pas parce que cette sécurité sociale ne confère pas les mêmes droits. Aujourd'hui, maintenant que vous savez que nos conditions sont catastrophiques, que nous sommes condamnés à 96% et à 92% respectivement, qu'allez-vous faire avec nous ? Qu'est-ce que vous allez mettre conjointement en place avec nous pour qu'on puisse lutter efficacement ? Parce que le non-lieu est passé et j'ai entendu personne se réveiller ici et dire quoi que ce soit. Ce sont toujours nous, les personnes issues des îles, qui devons nous défendre. Et il me semble que quand on défend les retraites, on défend tout le monde. Et j'aimerais bien en fait qu'on arrête cette dichotomie, cette disparité qu'on met entre les peuples. La Martinique et la Guadeloupe sont certes à 8 000 km, mais ça n'empêche pas que nous sommes français comme vous. Donc, comme je répète, je vais répéter avec un peu plus de véhémence, nous ne sommes pas juste une plage pour que vous veniez faire vos vacances. Et je ne vous accuse pas, mais j'aimerais vraiment qu'on trouve un moyen, qu'on reconstruise cette solidarité et cette fraternité. Quelqu'un m'a parlé ce matin du sens de fraternité dans le triptyque de la République. Eh ben, j'aimerais vraiment qu'on redonne du sens à cette fraternité et qu'on puisse aussi ériger nos combats avec les vôtres. Premièrement, qu'on puisse nous aider à changer de statut, qu'on soit reconnu en tant que statut ouvrier agricole, aussi au niveau de la sécurité sociale. Qu'on cesse de nous bloquer dans nos manœuvres de défense, c'est-à-dire quand on cherche des avocats ou qu'on essaye de faire porter nos dossiers justement au fonds d'exploitation qui est censé indemniser les ouvriers agricoles. Qu'on soit entendu, qu'on ne passe pas forcément par Phytovictime, qui est une association totalement... C'est un cheval de Troie qui a été posé par l'État pour filtrer les dossiers. J'aimerais vraiment qu'on trouve un semblant de cohésion. Et du coup, ben, je suis ouverte à toutes les propositions. Mais j'aimerais vraiment que vous ne fermiez plus les yeux. Et je dis ça pourquoi ? Parce que cet été, il faut savoir que j'ai organisé une marche avec mon mari. Nous avons traversé la France à pied de Champigny jusqu'à Toulouse. Nous avons fait 962 km, si je ne me trompe pas, à pied, pour parler du chlordécone. Les gens ne sont pas au courant, et quand ils sont au courant, ben, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce que c'est très très loin, et c'est à 8000 km. Mais sachez que ce qui se passe aux Antilles vous arrive à vous aussi. Il y a des pénuries d'eau, ça arrive aussi ici. La vie chère arrive aussi ici. Et vous découvrez enfin ce que c'est que la violence policière. Pendant que nous, on s'en plaignait depuis déjà des décennies. Depuis 1974, pour revenir encore une fois, sur la Saint-Valentin sanglante qui a marqué le début de la lutte contre le chlordécone. Donc ça fait depuis les années 70 qu'on se bat contre un pesticide et parce qu'on n'est pas entendu et parce qu'on est relégué toujours en place de ancienne colonie, département des Outre-mer qui est totalement loin de l'Hexagone, on n'est pas pris au sérieux. J'aimerais vraiment aujourd'hui à travers cette assemblée qu'on prenne vraiment ce problème au sérieux et qu'on essaye d'accompagner au mieux les ouvriers agricoles qui sont malades et pas uniquement les ouvriers agricoles parce que ce poison, comme je vous ai dit, s'est répandu dans toutes les terres et dans toutes les eaux pour 700 ans. Je veux bien que vous le mettiez en tête, 700 ans de contamination, où je n'ai même pas, moi, espoir, à 35 ans, de pouvoir élever mes enfants là-bas, sans qu'ils soient touchés. Mes enfants sont atteints par le chlordécone, et pourtant, je suis née ici. Je suis moi-même chlordéconée, et je suis née ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le cancer de la prostate, l'endométriose, beaucoup de femmes connaissent ce que c'est d'avoir des problèmes d'endométriose. Sachez qu'aux Antilles, le niveau est très élevé. L'infertilité des personnes est compliquée. Enfin, c'est compliqué de vivre dans un milieu qui est pollué, alors que dans la charte, dans la Constitution, la charte de l'environnement nous assure de vivre dans un endroit sain. Donc j'aimerais qu'on cesse cette espèce de distanciation et j'aimerais vraiment qu'on soit unis dans un combat qui nous mènera tous vraiment à notre réussite. Mais il faut vraiment qu'on se fédère et qu'on arrête de regarder les origines, les couleurs et l'origine géographique. Merci beaucoup.
Donc je suis Barbara, je suis de la Fédération Santé Action Sociale. Après le conflit des retraites, on n'a jamais parlé autant de travail que de santé. Donc je pense que ces deux thématiques doivent devenir les boulets du gouvernement. Ça, c'est la première chose qu'on doit avoir. Sur la question des morts au travail, c'est l'absence d'une politique générale de prévention depuis de très très nombreuses années et la dégradation des services de médecine au travail qui font aussi qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre en charge correctement la reconnaissance d'un certain nombre de métiers de certaines pénibilités, et y compris des soins. L'hôpital public est dans un état catastrophique. C'est pas ici qu'on va faire, dire le contraire. Pour autant, des ressources médicales, on a aussi des ressources en compétences, et donc on peut aussi nous apporter une certaine expertise sur certains dossiers. Dans la fonction publique hospitalière, on va tester cette année la mise en place des formations spécialisées. Alors nous, ça s'appelle comme ça, chez vous ça s'appelle des CCSCT, avec des prérogatives qu'on ne connaissait pas, avec aussi des prérogatives qui ont disparu. En tout cas, une des choses que nous on revendique le plus, c'est d'avoir un droit d'opposition, notamment sur les organisations du travail, parce que dans la fonction publique, aujourd'hui, à l'hôpital public, puisqu'il y a une pénurie de salariés depuis la crise Covid, il y en avait une avant, mais il y en a une aujourd'hui, 180 000 agents de la fonction publique, du social, du médico-social ont quitté depuis la crise Covid nos professions. Ça s'est tellement dégradé qu'aujourd'hui on fait autre chose que nos métiers de soins et d'accompagnement. Et le fait aussi d'avoir retiré des critères de pénibilité font que, c'est ce que disait Sophie Binet ce matin, les questions des métiers du soin et du lien qui touchent particulièrement les femmes, notamment 82% de notre secteur, sont peu reconnues et sont à très très forte sinistralité. Alors le camarade de Sud tout à l'heure parlait de perspective. Je pense que la première perspective, c'est effectivement d'avoir une plateforme commune, quelle qu'elle soit, je ne sais pas sous quelle forme elle pourrait naître, si c'est sur un blog, si c'est sur un 4 pages, si j'ai pas plus d'idées que ça, mais en tout cas avoir une plateforme commune avec tous les aspects, et notamment le premier aspect, c'est la prévention. Sur le ministère de la Santé, il y a marqué ministère de la Santé et de la prévention. C'était jamais arrivé. C'était marqué ministère de la Santé et des solidarités. Aujourd'hui, il y a solidarité et handicap et je ne sais plus quoi, personnes âgées, et santé et prévention. Sauf que la politique de la prévention, on n'en a pas dans notre pays. Ensuite, il faut aussi qu'on ait des vrais pouvoirs. Et le vrai pouvoir, c'est de pouvoir dire non. Et donc d'avoir un droit d'opposition. Parce qu'on peut revendiquer d'avoir le retour des CHSCT. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, même à l'hôpital, avec les expertises. Sauf que l'expertise, c'est pas un droit d'opposition. C'est des préconisations. L'employeur, qu'il soit public ou privé, il est en droit d'appliquer ou de pas appliquer s'il a les moyens ou pas. Alors que si on a un droit d'opposition et si on gagne un droit d'opposition, on a un véritable pouvoir dans les entreprises. Et ça, aujourd'hui, ça doit être une revendication extrêmement forte que la CGT doit porter. Et d'autres, je suis à la CGT, donc chacun sa paroisse. On doit pouvoir se réapproprier des nouveaux pouvoirs dans nos organisations et dans nos entreprises. En plus, on doit avoir des lois qui soient contraignantes, mais contraignantes financièrement. On ne peut plus avoir des condamnations si faibles qu'à la limite, ils préfèrent être condamnés que d'être emmerdés. Voilà, on est condamné, on n'en parle plus, on a réparé. Et on doit avoir une politique de réparation. Pour les victimes, ça c'est une première chose, et y compris pour les collègues de travail, etc., pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, j'en arrêterai là, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. On va devenir le boulet du gouvernement. Là, le CNR, on l'a boycotté à toutes, en intersyndicale, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Si vous voulez parler du travail, il faut aussi parler de la prévention et parler de nos métiers et de nos pénibilités.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu.
Et nous poursuivons l'écoute de ce débat autour de cette journée de mobilisation pour la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses
sur la question des accidents et des morts au travail.
Et cette table ronde se tenait à la Bourse du Travail ce 28 avril 2023.
Donc je m'appelle Frédéric Guillon, je fais partie de l'association ASD Pro. Je voulais mettre ma contribution aussi, puis peut-être faire aussi une autre proposition. Moi, je voudrais revenir sur la question du déni, je voudrais revenir sur la question de l'invisibilité, sur les questions de souffrance professionnelle. Il est évident que c'est encore plus dur que sur les risques classiques, j'ai envie de dire. Mais les risques classiques, ça ne veut pas dire que je les minore. Mais les risques psychosociaux, il est évident que c'est encore plus compliqué, c'est invisible et on peut attribuer à la personne elle-même. Bon, bref, Michel vous a expliqué. Moi, je voudrais juste vous faire part d'une chose. Pendant les 15 ans de travail de notre association, on a partagé l'expérience de France Télécom. Et à France Télécom, que s'est-il passé? Il s'est passé que monsieur patron de France Télécom, tant que les syndicats étaient divisés, tant que monsieur patron maîtrisait l'information, eh bien, il ne s'est rien passé. Il pouvait manipuler les syndicats et manipuler les salariés. Quand l'intersyndicale s'est créée au travers l'Observatoire du stress et des mobilités forcées, monsieur patron de France Télécom a été obligé de changer de braquet. Et à partir de là, il s'est passé une réelle dynamique parce que les syndicats s'appropriaient le sujet et n'attendaient pas l'information du patron, mais faisaient venir l'information de la base, du terrain, des équipes syndicales et des chercheurs qui étaient aussi à côté d'eux et qui aidaient cet observatoire à travailler. C'est le travail de l'Observatoire du stress qui a permis le procès France Télécom. C'est ce travail-là qui a permis cette offensive. Elle n'a pas été suffisante. Elle n'a pas été suffisante pour la raison suivante. C'est que même cet observatoire a sous-estimé l'importance de la reconnaissance AT-MP. Monsieur patron de France Télécom, qui est devenu Orange, a bien voulu indemniser Bon Prince, comme ils ont plein de pognon, ils pouvaient bien consacrer quelques euros à indemniser des victimes. Mais ils ne les ont pas reconnus comme étant victimes de leur travail et de leur organisation du travail. Donc ça a continué. À Orange, pendant le procès en appel, il y a eu des suicides, ça a recommencé. Et d'ailleurs, à Orange, ça recommence. Hein, ça ne s'est pas arrêté. Donc, moi, ce que je voulais renvoyer à cette Assemblée, c'est que je ne crois pas qu'on puisse avoir une offensive réelle sur les questions de prévention des risques, que ce soit l'amiante, la chlordécone, les risques psychosociaux, la sous-traitance, les intérimaires, enfin tout ce qui est accidentogène, si les syndicats ne mettent pas les pieds dans le plat, ensemble. Et moi, j'appelle cette assemblée à devenir une assemblée intersyndicale, interprofessionnelle, avec les associations comme les nôtres, avec les chercheurs. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que monsieur patron national y sente que quelque chose se passe et que nous ne laisserons plus passer tout ce qui se passe dans le travail. Ce n'est plus possible. Alors moi, je vous fais un appel, les copains, les copines. S'il vous plaît, allez chercher les autres syndicats. L'année prochaine, il faut qu'il y ait tous les syndicats qui soient là. Il faut les chercheurs, il faut tout le monde ici. On s'épuise tous. Nous épuisons tous dans notre volonté d'agir là où nous sommes. Mais on ne va pas y arriver. Il faut qu'on soit tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et s'il vous plaît, là où il y a un embryon, il ne faut pas le laisser passer. Cet embryon, grâce à cette journée du 28, et merci. Merci les organisateurs, merci à vous tous d'être là, mais l'année prochaine et même avant, il faut élargir. Nous devons utiliser la dynamique qu'il y a par rapport à la retraite, à ce rejet de ce projet, pour nous associer sur les problèmes de pénibilité, d'usure professionnelle et d'exploitation juste inadmissible dans le monde du travail. Voilà ce que et de danger. Voilà, un appel.
Là, je voudrais plus intervenir au nom de l'association Henri Pézerat, qui est une association qui relie les combats pour la santé au travail et la santé environnementale. Souvent, dans les dossiers qui ont été cités jusqu'à maintenant, que ce soit d'ailleurs la souffrance au travail, le chlordécone, l'amiante, etc., vous avez à la fois, évidemment, l'exposition des travailleurs directs, hein, ceux qui sont sur l'amiante ou chlordécone, mais vous avez aussi toute la population, les réseaux dans lesquels ils sont insérés, hein, qui subissent aussi ces expositions de façon directe ou indirecte. Le fait de lier santé environnementale et santé au travail, ce n'est pas simplement une formule sympathique qui a l'air du temps, mais c'est ce qui exprime vraiment les combats qu'on doit mener aujourd'hui. ces expositions aux produits chimiques sont aussi la marque d'une priorité donnée dans la société aux intérêts des grandes entreprises qui se font très largement des bénéfices sur l'absence de prévention des risques, donc des risques professionnels, mais aussi de l'absence de travail sur les expositions aux produits chimiques. L'espérance de vie n'augmente plus en France, elle stagne depuis 2014, et surtout depuis 30 ans, les inégalités de mortalité n'ont cessé de se creuser. En 1984, un ouvrier avait 4 fois plus de risques de mourir du cancer avant 65 ans qu'un cadre supérieur. En 2008, c'est 10 fois plus. Parmi les pays de l'OCDE, la France détient depuis plusieurs décennies le triste record de la mortalité ouvrière précoce, c'est-à-dire avant 65 ans. Les causes de cette mortalité sont notamment liées à la chimisation toxique, c'est-à-dire à, en toute invisibilité, à l'exposition aux produits chimiques dans la société, mais aussi dans les entreprises. La reconnaissance en maladie professionnelle a été arrachée de haute lutte, au cas par cas, pour moins de 0,5% des 400 000 nouveaux cas de cancer annuels. Cela délaisse donc à la charge de l'assurance maladie le montant du traitement de ces 2 millions correspondant à ces cas de cancer non reconnus en maladie professionnelle, mais cela laisse aussi tout le champ ouvert de l'absence de prévention des risques par rapport à ces produits. Vous avez vu qu'il y a 10 critères de pénibilité. Macron donc en avait gardé que 6, en a écarté 4. Mais dans les 4 qui ont été écartés, il y a donc l'exposition aux produits chimiques, la 10e pénibilité, et plusieurs millions de salariés sont exposés de manière habituelle, sans protection, à des agents chimiques dangereuses, dont les cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ce qui constitue autant d'infractions caractérisées. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut poser la question d'un tableau de maladies professionnelles prenant en compte la polyexposition aux cancérogènes. Nous avons des tableaux d'exposition sur un certain nombre de produits cancérigènes qui sont séparés les uns des autres. Hein. Vous avez l'amiante, le benzène, machin, ça. Bon. Vous avez un tableau pour chacun des produits. Aucune étude n'est faite sur la polyexposition. Aucun travail n'est fait pour que cette polyexposition soit reconnue comme étant à la source de très nombreuses infections. Voilà, il me semble, un des chantiers qu'il faut qu'on ouvre dans les mois qui viennent. Je pense qu'effectivement, on a une assemblée très particulière ici sur ces multiples dimensions de la santé au travail. Il faut qu'on arrive à mettre en place, en fait, un certain nombre de groupes de travail pour pouvoir avancer concrètement. L'année dernière, on avait adopté une plateforme commune, ce que disait une intervenante, qui était un manifeste pour la santé au travail en 2022, suite au rassemblement ici même qu'on avait fait. Ce manifeste peut servir aussi de base de référence. Mais il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on avance sur les différentes dimensions concrètes des atteintes à la santé et à la sécurité des salariés. Et c'est par ce travail concret qu'on pourra vraiment avancer et mesurer surtout notre avancement.
Je vais faire court, Louis-Marie. Je suis délégué personnel aux aéroports de Paris. Alors, aéroports de Paris, en deux chiffres, c'était une entreprise qui appartenait à l'État. On était géré par le ministère des Finances et le ministère du Transport. En 2005, on est passé société anonyme. On a suivi un peu la même trajectoire que France Télécom. En 2006, ouverture du capital. Et là, a été mise en place des réorganisations avec présentation en CE, avec la possibilité au CHSCT de mettre des garde-fous, etc. Et à partir de 2012, il y a un changement radical. C'est que dans notre entreprise, il y a une multitude de métiers, avec des petits groupes, des plombiers, des électriciens, des médecins. Il y a des égoutiers, voilà, c'est comme dans une ville. Et en fait, a été nommé par Sarkozy à l'époque, M. de Romanet, qui lui a mis en place un nouveau système. C'est-à-dire qu'on crée la désorganisation du travail sans même prévenir les organismes syndicaux. C'est-à-dire qu'on crée des déplacements de salariés. On mettait en difficulté les salariés pour qu'ils quittent le service qu'on voulait sous-traiter. Et une fois que le boulot avait été fait, on présentait le dossier en CE. Donc les syndicats se retrouvaient avec un service qui était dépouillé, il n'y avait plus personne, donc on excarisait. Sauf que le mal avait été fait en amont, en cachette. Il faut savoir que la souffrance au travail, la plupart des salariés qui sont en souffrance restent intériorisés. Mon premier cas, c'était en 2012, c'était ma gestionnaire. Un matin, j'arrive et je la vois en pleurs dans le parking, dans son véhicule. Ça a été mon premier cas en tant que délégué du personnel. À partir de ce jour-là, je me suis battu avec elle auprès de la Sécurité sociale pour faire reconnaître son accident, qu'on a eu réussi, ça a mis 3 ans. À cette époque-là, j'avais une juge qui m'avait conseillé d'aller pour les prochains dossiers sur de la maladie pro. J'avais pas écouté parce que j'avais d'autres dossiers qui couraient sur des accidents. Donc pendant des années, j'ai fait reconnaître des dizaines d'accidents du travail pour risques psychosociaux, jusqu'au jour où j'ai une nouvelle juge, cette fois-ci au tribunal de Meaux, qui m'a dit « allez sur de la maladie professionnelle ». Parce que des accidents, vous en ferez reconnaître des dizaines, ça serait toujours des cas individuels. La maladie professionnelle, même si c'est du hors-tableau, que c'est compliqué, quand vous en aurez 3-4, ça impactera l'entreprise complètement. Et effectivement, aujourd'hui, j'en suis à 4 maladies professionnelles, j'en ai 2 en cours, et on y arrive. Ça fait 10 ans que je travaille sur les risques psychosociaux, et aujourd'hui, on a les résultats. Tous les dossiers qu'on considère être en relation avec le travail, on obtient gain de cause devant la justice. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire des réunions, qu'on puisse, nous, apporter notre expérience. Les collègues de France Télécom de Sud m'ont apporté énormément parce qu'eux aussi m'ont dit, dans un cas comme le nôtre, c'est la même chose que ce que tu vis à l'aéroport de Paris, il faut médiatiser. Donc, effectivement, j'ai médiatisé. Il y a Mediapart qui est venu, qui a fait un article, qui fait 8 pages, c'est sur Internet, aéroport de Paris. Cet article-là, tous les jours, je m'en sers. Quand j'ai une maladie pro que je veux faire déclarer, j'écris, moi, en parallèle du questionnaire du salarié, j'écris, moi, à la Sécurité sociale et j'envoie, entre autres, cet article de presse. Aux aéroports de Paris, quand on a un salarié qui est en souffrance, la première chose qu'on fait, c'est déjà s'occuper de la personne. C'est primordial. Sinon, vous vous retrouvez avec un salarié qui décroche et qui finit par se suicider ou faire des tentatives. Donc, la première chose qu'on explique quand on fait des formations, c'est la prise en charge du salarié. Comment le protéger ? Et on explique que la meilleure solution pour le protéger, c'est de l'impliquer dans son dossier, c'est-à-dire lui demander de faire un historique, lui demander de préparer sa défense. Et à ce moment-là, le salarié remonte la tête. Et une fois qu'il a remonté la tête, vous êtes déjà sûr qu'il ne fera pas de bêtises. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir. Et en tant que délégué, vous êtes dans le secteur, vous êtes dans votre entreprise, et vous avez la possibilité de récolter des documents, des éléments qui vous permettent, devant un juge, de gagner systématiquement. Donc moi, ce que je proposais, c'est entre autres, de faire peut-être, c'est bien le blog, mais peut-être aussi de faire des réunions de travail pour ceux qui sont intéressés dans ce domaine des risques psychosociaux, parce que c'est très spécial, hein. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'élus qui... C'est une montagne infranchissable, d'accord ? Il faut aimer ça. Pour les risques psychosociaux, tout à l'heure, on parlait de mettre quelque chose en place dans l'entreprise pour que ça se reproduise pas. Sauf que les risques psychosociaux, comme à France Télécom ou à l'aéroport de Paris, où c'est fondamentalement une organisation, vous pouvez rien mettre parce que c'est la direction qui est à la manœuvre. Oui, vous pouvez mettre quelque chose quand c'est un problème entre 2 salariés qui se harcèlent ou quand c'est du harcèlement sexuel. Oui, vous pouvez mettre en place des choses. Mais quand c'est une politique d'entreprise, il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire aller à la Sécurité sociale, faire reconnaître les maladies professionnelles et derrière, mais c'est hyper important dans des entreprises comme les nôtres, c'est d'attaquer l'employeur. Faute inexcusable systématiquement, et s'il y a du pénal, il faut aller au pénal. Et publier, écrire aux journaux, Le Parisien, Libération, Le Monde, et ça fait énormément de mal à ce genre d'entreprise. Voilà, c'est tout.
En évoquant ce qui se passe à la Sécurité sociale, il faut savoir que je viens de faire un article sur le cœur au travail qui est malmené et non reconnu. Les crises cardiaques ne sont pas reconnues, ne sont pas identifiées. C'est balancé dans la série Malaise, ce qui fait que c'est strictement invisible. Il y a, une obstruction de la part de l'assurance maladie de faire connaître ces chiffres.
Merci Céline, c'est à Adrien. Bonjour, moi je fais partie d'un collectif qui se mobilise contre la loi Darmanin. Je voulais juste rebondir rapidement sur ce qu'a dit le camarade qui vient de partir, qui parlait des JO. Effectivement, nous on pense qu'il y a un lien très fort à faire entre les conditions de travail de tout le monde et ce type de loi sur les papiers. Que les JO, parce que c'est un endroit où travaillent beaucoup de personnes sans papiers et beaucoup d'intérimaires et beaucoup de personnes en sous-traitance, c'est vraiment un endroit crucial pour faire ce lien. Qu'avec la Coupe du Monde au Qatar l'année dernière et le retard des chantiers, on a un boulevard pour faire ça. Et que du coup, ça serait intéressant de s'organiser collectivement pour voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Nous, on avait organisé une action au chantier de Pleyel il y a quelques semaines suite à l'annonce de la cinquième personne qui était morte sur les chantiers du Grand Paris Express depuis le début du chantier. Et on est volontaire pour réfléchir à ce type d'action, à d'autres actions, et réfléchir surtout plus largement à comment on lie ces deux sujets, quoi, de conditions du travail et de recul des droits des personnes étrangères, des personnes sans papier.
Je voudrais revenir sur ce qui a été dit au début sur les propositions gouvernementales qui touchent aux institutions. En tout cas, il parle de revenir en arrière sur certaines choses, mais un truc qui est fondamental, c'est que dans les institutions, et Sébastien l'a bien dit tout à l'heure par rapport à la SNCF, nous, dans le privé, ça fait 4 ans qu'on le vit, on n'a pas les moyens de fonctionner. Et il ne suffit pas de dire on va faire ci, on va faire ça, si on ne donne pas des heures et du temps pour agir, on ne pourra pas. Et au niveau de l'action, moi je reviens quand même, ce qui est quand même important, c'est l'action sur le terrain. Et sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on voit au niveau des accidents de travail? Certes, il y a les accidents de travail qui sont vraiment visibles, sur lesquels les employeurs peuvent difficilement faire des cachotteries. Il y a tous les problèmes des camarades qui sont en souffrance psychologique, et ça, à ce sujet-là, je rejoins complètement ce que tu dis, il y a un accompagnement très important qui doit être fait, et c'est fondamental. Mais il y a aussi à faire tout un travail de terrain par rapport à nos collègues. Il y a toute une logique qui est quand même très forte d'individualisation de chacun au boulot. On nous dit, de toute façon, dès qu'il nous arrive quelque chose, c'est notre faute. C'est jamais la faute de l'employeur. Les risques organisationnels, il n'y a pas que sur le plan psychologique, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Quand il y a un accident de travail, quand un salarié se blesse au boulot, jamais, jamais il y a de plan d'action dans les entreprises. Et très souvent, en fait, les accidents, c'est dû à l'organisation du travail, à des cadences qui sont imposées. On ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, c'est totalement intériorisé. Et je pense qu'il y a un travail sur le terrain qu'on ne fait pas, qui est très insuffisant, pour expliquer à nos camarades, non, un accident de travail, ce n'est pas de ta faute. Si tu n'arrives pas à faire ton boulot, ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas parce qu'on essaie de pousser en fait nos collègues à dire « Ouais, ouais, à cause de toi, on va perdre notre prime. » c'est pas là-dessus qu'il faut effectivement se laisser entraîner comme terrain la part des patrons. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de revenir vraiment aux fondamentaux quand même du syndicalisme, la lutte collective, l'action collective, la résistance collective, parce que c'est aussi la résistance. Ça peut passer aussi, je le rappelle, par des droits de retrait, par des DGI, des alertes, etc. Et ça, c'est des choses très importantes à mener, et surtout pas se laisser à chaque fois enfermer dans des actions individuelles, qui souvent d'ailleurs, par le biais des instances, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'accompagnement individuel, et finalement, au bout du compte, on accompagne une victime comme on peut, et heureusement qu'on le fait, mais résultat final, tout ce qui se passe à côté, ça passe à la trappe, et les patrons sont très contents. Voilà, je vais pas aller plus loin. De toute façon, tout à l'heure, dans la synthèse, je pense qu'on va avoir des propositions qu'on pourra débattre.
Je vais essayer de faire super court. Moi, je suis membre de l'association des cordistes. Au mois de novembre, il y a un collectif de proches de victimes d'accidents du travail, de travailleurs qui sont décédés au travail, qui s'est constitué. Entre novembre et aujourd'hui, ce collectif a réussi en fait à établir une liste de revendications assez claire qu'ils ont exposée là le 4 mars. Ils ont organisé un rassemblement devant le ministère du Travail, qu'ils ont présenté une liste de revendications assez synthétique et claire sur les problématiques liées à la mortalité, aux accidents du travail et aux morts au travail. Moi, la question que je pose et l'invitation que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est qu'on ne se quitte pas avec rien du tout aujourd'hui. Là, on est à la deuxième journée qui est organisée sur ces questions-là. Je pense qu'il y a un enjeu crucial à ce qu'on se quitte avec un minimum de revendications communes aujourd'hui, qu'on puisse communiquer fortement aujourd'hui sur cette base de revendications minimales, parce que sinon, En fait, je pense qu'on va juste se retrouver encore l'année prochaine et on n'aura pas avancé. Là, on essaie de faire un battage à toutes et tous, pour essayer de mettre en avant cette question de la santé et de l'accidentologie au travail. Je pense que si derrière, on n'arrive pas à avoir une parole commune, on n'arrivera pas grand-chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été à nouveau listées aujourd'hui, qui avaient déjà été commencées à être listées l'année dernière. Je pense que ce ne serait pas très compliqué qu'on arrive à mettre au propre cette liste. On a les contacts des différentes organisations qui sont parties prenantes aujourd'hui. On se les fait tourner. C'est une question de semaine. Je pense qu'il faut vraiment se donner des délais très courts et qu'on arrive à établir une liste minimale de revendications et à la communiquer très largement. Enfin, merci.
Ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a un gros travail à faire. Alors, ce travail, on l'avait déjà commencé déjà il y a un an. Je rappelle qu'on avait formulé une plateforme commune avec le manifeste qu'on avait fait, qui a déjà une base des revendications qu'on a avancées là, qui sont déjà dedans. Mais il y a besoin de l'enrichir, c'est clair. Et il y a besoin aussi de continuer à avancer à ce que notre débat, notre action soit plus publique et plus relayée au niveau des autres syndicats, des autres associations et finalement tout notre entourage. Alors, nous, ce qu'on propose, en fait, un petit peu comme solution, ce serait de créer, en fait, des groupes de travail qui travailleraient dans le but de déboucher sur une journée ou deux, je ne sais pas, ça, après, il faut qu'on voit comment on le fait concrètement, cet automne, qui serait un peu une journée de synthèse, et de cette journée de synthèse sortiraient réellement des documents un peu, je ne vais pas dire finaux, parce que ça bouge tout le temps, mais des propositions d'action, et ça peut être des revendications, ça peut être aussi une synthèse aussi de méthode de travail, d'approche, parce qu'effectivement, ce qui a été expliqué tout à l'heure quand même par rapport à l'approche des camarades en victimes de problèmes psychologiques dans les entreprises, c'est vrai qu'il y a des méthodes, il y a des moyens, des méthodes, j'aime pas le mot, mais il y a effectivement des approches, des échanges à faire aussi sur, par exemple, comment nous, quand on travaille chez un donneur d'ordre, comment on intervient par rapport à tous nos sous-traitants, par rapport à nos prestataires, par rapport à nos intervenants dits autonomes, etc., etc. L'idée serait déjà de faire un groupe qui travaillerait sur les maladies professionnelles, les polyexpositions, sur les travailleurs précaires, la sous-traitance et les apprentis. C'est aussi de la pollution chimique, en fait, la chlordécone, mais aussi ça concerne des aspects environnementaux et qui sont, je rappelle quand même que les colonies ou ex-colonies chez nous, il y a aussi des gens qui souffrent dans des mines et la part de multinationales qui, finalement, en Afrique, font crever des gamins et des populations civiles. Ça fait aussi partie des sujets qu'il ne faut pas négliger. Et puis aussi, associé à ça, on a dit tout notre environnement, même en France, au niveau agricole, qui est catastrophique. Il y a aussi l'aspect de la fonction publique qui, dans laquelle l'approche n'est pas la même que dans le privé concernant les accidents de travail. Donc on a la plateforme commune qui est une base. Il y a aussi des permanences d'accueil, santé et travail qui ont lieu régulièrement les lundis et vendredis tous les 15 jours. Et puis, dans les actions à mener, il y a une action importante à mener sur l'Île-de-France. Et là, c'est un travail qu'il va falloir qu'on organise. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport au Grand Paris, aux Jeux Olympiques. Il est clair qu'il ne faut absolument pas qu'on reste inerte par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Parce qu'on sait que, vu qu'ils veulent tenir leur délai...
Quand on a l'impression de faire un sale travail, de ne pas faire un travail correct, et bien c'est ça qui amène aussi les risques psychosociaux. Et je pense que nous, ce qu'on a à travailler, c'est vraiment les organisations du travail, c'est-à-dire on n'a aucun poids là-dessus, on l'a dit tout à l'heure, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Moi, je pense que c'est vraiment l'organisation du travail qui est maltraitante, que ce soit pour les risques psychosociaux ou pour tous les autres risques qu'on a évoqués aujourd'hui.
Je ne vais pas dire quelque chose de nouveau, mais à partir des choses qui ont été dites, moi, je suis d'accord pour les groupes de travail, mais je pense que le plus important, c'est de susciter un mouvement intersyndical et avec les associations aussi, sur des revendications simples. D'abord, il y en a deux qui me paraissent essentielles, c'est remettre en place les CHSCT et développer, au lieu de l'enfouir, l'inspection du travail. Ça, c'est déjà deux revendications qu'on peut proposer dans des structures intersyndicales et interprofessionnelles de manière à en faire un thème vraiment revendicatif immédiat.
C'est bien qu'on échange aussi sur les modes d'action.
parce que, comme tu disais, moi j'appuie ça, parce que c'est aussi dans les points qu'on a proposés ce matin. Déjà, que chacun et chacune fasse part des modes d'action pour régler les problèmes qui ont été utilisés à tel ou tel endroit, et pour proposer à ce qu'on se coordonne justement dans tout le pays, y compris les colonies. On ne va pas vous laisser de côté. Ça aussi, c'est vachement important. C'est pas seulement d'être calé sur les problèmes en eux-mêmes, mais c'est aussi de devenir calé sur comment pouvoir les régler collectivement.
Donc je vais vous dire un petit mot conclusif. Donc je suis Benoît de la CGT Paris, une union départementale. Il y a une vraie visibilité qui est en train de grandir sur ces questions-là. Je pense au bouquin de Mathieu Lépine, je pense à l'émission qu'on a pu voir la semaine dernière, Complément d'enquête, je pense à tout ce qu'on fait nous aussi. Donc on va faire grandir ce phénomène qui est insupportable de mourir au travail, en faire grandir en tout cas la connaissance de tout ce qui se passe. Voilà, il va falloir continuer à faire un travail intersyndical, interassociatif et interdisciplinaire, parce que sinon on prend les choses par le petit bout de la lorgnette et c'est ridicule. Donc tout ça est lié, il faut vraiment qu'on travaille bien ensemble. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui la fédération CGT de la construction était très mobilisée. Il y a des gens qui sont montés à Paris aujourd'hui, de cette fédération qui est très impactée par les morts au travail. C'est pas du tout fatal que le droit du travail recule. C'est dû à l'affaiblissement du syndicalisme depuis quelques décennies. C'est dû à un processus néolibéral qui essaie de tout détruire sur son passage. Il privatise. Il faut reculer le droit du travail. Il faut reculer la protection sociale. C'est partout en Europe, partout dans le monde. Mais c'est pas fatal. C'est une question de rapport de force. Et nous, il faut qu'on prépare la suite. Il faut qu'on soit visionnaire. Il faut qu'on anticipe. Il faut qu'on prépare du droit positif qu'on pourrait faire entrer dans le code du travail. Il faut qu'on travaille dans nos groupes de travail, justement. J'utilise beaucoup le mot travail, mais voilà. Il faut qu'on passe vraiment là-dessus et qu'on interpelle les parlementaires, les parlementaires les plus progressistes. On ne va pas aller vers le RN, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les mois qui viennent? On ne va pas attendre dans un an, le 28 avril 2024, bien entendu. Moi, je propose, enfin, nous proposons, on en a parlé un petit peu avec Louis-Marie, mais que dès le mois de septembre, on puisse tenir des assises de la santé et de la sécurité au travail, et que d'ici là, on continue à discuter dans des groupes de travail qu'on va mettre en place, et donc qu'on puisse tenir des assises en septembre. Il faut absolument former tous les militantes, tous les militants, tous les élus, tous les mandatés, et si ça ne se fait pas...
vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site OCLibertaire.
Radio Primitive.
La radio libre et associative.